il y a une deuxième attitude nécessaire, absolument indispensable pour notre progrès spirituel après le désir, c'est l'humilité, la vertu d'humilité. Car c'est une vertu qui nous prend tout entier, c'est une vertu qui, si elle est pratiquée, si elle est recherchée, comme le demande saint Benoît de ses moines, car il est remarquable que pour saint Benoît, l'échelle de la perfection, comme il le dit, l'échelle de Jacob qui monte au ciel, pour lui, les deux montants de l'échelle, ce sont le corps et l'âme. Les traverses, les montants, les échelons de l'échelle, ce sont les échelons de l'humilité. Saint Benoît estime donc qu'une âme qui progresse toujours davantage dans l'humilité progresse toujours davantage dans la perfection. Il ne demande pas d'autre. Et il prétend que celle qui arrive au dernier, au degré le plus élevé de l'humilité, est celle qui se trouve dans le plus grand degré de la charité. Voilà comment saint Benoît concevait sa spiritualité. Donc il estimait que la vertu d'humilité était vraiment la vertu fondamentale de ces moines. Et quand on sait l'influence qu'a pu avoir la spiritualité de saint Benoît sur toute la vie religieuse dans l'Église, eh bien, on est obligé de penser qu'il faut réfléchir à cette règle de saint Benoît, qui est si peu de choses. Voilà toute la règle de saint Benoît, petit livre. Quand on pense, c'est quelques considérations de saint Benoît qui ont suffi pour donner à des milliers d'âmes religieuses, et combien d'âmes ont ensuite profité de cette règle de saint Benoît pour s'établir dans la vie religieuse, même en dehors des bénédictins et des bénédictines, et des cisterciens, et que de moines ont profité de cette petite règle de saint Benoît. Alors il est tout de même intéressant et pour nous et instructif de penser que saint Benoît base toute sa spiritualité pour ses moines, il la base sur l'humilité. Alors il faut apprendre vraiment ce qu'est l'humilité, ne pas en avoir une fausse notion. L'humilité n'est pas une vertu qui est simplement destinée à nous rabaisser, en quelque sorte, à nous diminuer, à nous étouffer, à nous écraser. Pas du tout. Voici comment on peut définir l'humilité. On peut définir l'humilité ainsi. L'humilité est une vertu morale qui nous incline par révérence envers Dieu. C'est une vertu morale qui nous incline par révérence envers Dieu, et ceci est important, c'est saint Thomas, c'est la définition de saint Thomas, pratiquement. Par révérence envers Dieu, à nous abaisser et à nous tenir à la place que nous voyons nous être dus. Nous abaisser en ce sens que nous remettre à notre vraie place. Alors, il faut donc conclure que dans la mesure où nous n'avons pas l'humilité, dans cette mesure-là, nous ne sommes pas à notre vraie place. Nous ne nous mettons pas à notre vraie place. Et c'est ça qui est important de savoir. Qu'en fait, nous vivons constamment dans une certaine illusion. Nous vivons dans une certaine illusion. Donc l'humilité est une vertu morale qui nous incline par révérence envers Dieu à nous abaisser et à nous tenir à la place que nous voyons nous être dus, À la place qui nous est due, c'est la place d'une créature, et c'est la place d'une créature qui est rachetée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc deux liens que nous avons profonds avec Dieu, créature, nous sommes de pauvres créatures, nous sommes des créatures, Alors, dans la mesure où nous approfondissons la notion de créature, dans cette mesure-là aussi, nous nous mettrons à notre véritable place vis-à-vis de Dieu. Et dans la mesure où nous approfondirons le bienfait de la grâce que le bon Dieu nous donne en nous rachetant et en nous faisant ses fils par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous méditerons sur notre état de pécheur et sur la grande miséricorde de Dieu envers nous. Et cela nous mettra aussi à notre véritable place vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important ici-bas que de nous mettre à notre place vis-à-vis de Dieu ? Nous n'avons pas le droit de ne pas être à notre place vis-à-vis de Dieu. Nous sommes donc dans une espèce de place fausse, erronée, illusoire, si nous ne sommes pas véritablement devant Dieu comme ses créatures. On pourrait, je pense, résumer toute la théodicée. La théodicée, par ces deux petits mots insignifiants, qui paraissent bien, enfin, tout petit mot de rien du tout. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est ens asse, l'être qui est par lui-même. Qu'est-ce que la créature ? Ens abalio, l'être qui est par un autre. C'est ça la théodicée, c'est ça. Et alors on approfondit en théodicée, qu'est-ce que l'ens asse ? Qu'est-ce que c'est ? Que l'être qui est par lui-même. L'être qui est par lui-même, ens asse. L'être qui est par un autre, ens abalio. C'est ce que nous sommes, ens abalio. Il suffit d'approfondir un peu cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'un être qui n'est pas par lui-même, qui est tout entier par un autre ? Et qu'est-ce que c'est qu'un être qui est tout entier par lui-même ? Ben, c'est la différence du tout au rien. Du tout au rien. Celui qui est par lui-même est tout, parce qu'il a l'être en lui-même, toutes les ressources de l'être. Quelque chose d'imaginable, qui dépasse notre imagination, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il a toutes les ressources de l'être en lui-même, tout. Rien ne lui échappe, rien de ce qui est être n'appartient à Dieu. Rien. Dans tout le monde connaissable, dans tout le monde connu, dans tout le monde qui existe, rien qui existe n'appartient à Dieu en propre. C'est à lui, ça lui appartient. Parce qu'il est l'être, parce qu'il est la source de l'être, qu'il maintient l'être dans son existence. Il ne peut pas y avoir d'être qui ne, en dehors de Dieu qui ne soit pas abalio. Abalio, c'est-à-dire par Dieu. Nous sommes ens abalio. Donc nous n'avons rien par nous-mêmes. Comme être, rien qui nous appartienne. Tout appartient à Dieu en nous. Tout. Alors vous voyez quelle attitude on devrait avoir. Déjà, quelle attitude on a devant, je dirais, ses parents, ou bien devant des grands bienfaiteurs, ceux qui nous ont aidés dans notre existence, ceux qui nous ont donné quelque chose. Nous avons une attitude de respect, de révérence, de reconnaissance, de remerciement. Mais qu'est-ce que cela par rapport à Dieu ? Même cet être que nous avons maintenant en nous, même cet être que nous sommes, qui circule, qui est notre âme, notre corps, tout ce que nous avons, rien n'est que par un autre, abalio. Et cet alio, c'est l'insassé qui est Dieu. L'insassé. Si on approfondit tant soit peu cette notion, ça c'est de la vérité. Alors c'est ça l'humilité. L'humilité, on se remet dans la vérité. Parce que nous sommes des orgueilleux. Nous croyons avoir quelque chose par nous-mêmes. Nous croyons être quelque chose par nous-mêmes. Les hommes sont comme ça. Nous sommes dans l'erreur, dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Depuis le péché originel, nous avons cette... Alors il faut nous remettre dans la vérité, dans la réalité. Il n'y a rien de plus affreux que de vivre toujours dans l'illusion. Or, c'est un fait, que voulez-vous, nous sommes malheureusement comme ça, nous sommes dans... Et c'est cela, cette vertu d'humilité est précisément a pour but de nous remettre à notre place. C'est donc pas une humiliation, c'est pas un écrasement, c'est nous mettre exactement ce que nous sommes. Et même tout ce que nous recevons par d'autres, ces autres le reçoivent de Dieu. Donc même nos parents qui nous ont donné la vie, qui ont donné la vie de notre corps, car notre âme est créée directement par Dieu, pas l'oublier. Nos parents qui nous ont donné notre corps, et par l'intermédiaire de notre corps, notre âme, puisque le bon Dieu vous le donne, se donne l'âme au corps qui est préparé dans le sein de la mère, eh bien, cette existence que nous recevons, elle n'est que transmise. Nos parents ne nous donnent pas l'existence comme si eux avaient une existence et puis qu'ils la donnent. Ils ne font que transmettre. Ça ne leur appartient pas, leur propre existence ne leur appartenant pas. Comment peuvent-ils donner une existence à d'autres, sinon que la communiquer, communiquer une existence qui ne leur appartient pas. Parce que aucune créature n'est par elle-même. Aucune créature n'existe par elle-même. C'est-à-dire, sinon elle existerait toujours. Créature qui serait par elle-même existerait toujours. Elle ne pourrait pas ne pas exister, puisqu'elle aurait l'être en elle-même. Donc elle aurait l'existence par son propre être. Il n'y a que Dieu, justement, qui ne peut avoir l'être par lui-même. Et ce qui fait qu'il est éternel, et qu'il est toujours, qu'il a toujours existé. Parce qu'il ne peut pas se séparer de l'être, c'est lui l'être. Il est l'être. Alors, si l'on songe à tout cela, et toutes les conséquences de cette petite vérité, de ces quelques vérités simples, à toutes les conséquences, c'est que nous ne pouvons rien faire, rien penser, rien vouloir, rien désirer, rien agir, rien faire sans Dieu. Même les pécheurs. Aucune créature, aucun être, aucun ange, aucun élu du ciel, aucun animal ici sur terre, aucune créature ne peut agir, ne peut se mouvoir, ne peut se développer de quelque manière que ce soit, même les plus petits insectes, les plus insignifiants, sans Dieu. Impossible. Impossible. Alors, quand on pense qu'il y a des hommes qui vivent comme si Dieu n'existait pas, ils sont pourtant portés par Dieu tout le temps, tout instant de leur vie, depuis le premier souffle jusqu'au dernier souffle, ils sont portés par Dieu, ils ne peuvent pas respirer sans que Dieu leur en donne la possibilité par son être, parce que tout être vient de lui. Et que ces gens-là vivent pendant toute leur vie, sans même penser à celui qui leur donne tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent faire, toute leur activité. C'est inouï. Parce que l'homme se centre sur lui-même, ne pense plus qu'à lui-même, ne croit, s'imagine que tout lui appartient, qu'il a une existence, tout ça lui appartient. Or, tous les jours, nous voyons bien que nous ne nous appartenons pas. Tous les gens vivent, meurent, disparaissent, n'ont pas l'être par eux-mêmes, sinon ils ne mourraient pas. Et donc là l'humilité, et cette humilité doit nous donner justement cette révérence envers Dieu, la révérence envers Dieu. Cette révérence qui doit instinctivement nous plonger dans l'adoration. L'adoration. Nous devrions être tout le temps, je dirais, d'une manière habituelle, non pas d'une manière actuelle, bien sûr, mais d'une manière habituelle, notre première attitude native qu'on devrait avoir avec notre premier souffle et notre première parole devrait être une parole d'adoration de Dieu. On adore celui qui nous donne tout, celui par qui nous sommes tout et sans lequel nous sommes rien, rien. Et c'est d'ailleurs, Saint-Paul le dit très bien, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6e, verset 3e. Si quis existimat, se esse aliquid, cum nihil sit, ipse se seducit. Une parole très brève, très concise, mais profonde. Si quis existimat se aliquid esse, si quelqu'un s'imagine qu'il est quelque chose, se aliquid esse, cum nihil sit, comme il n'est rien, ipse se seducit, il se trompe. Eh bien, on pense qu'il y a des millions d'hommes et peut-être des milliards d'hommes qui se trompent toujours, et nous-mêmes, nous nous trompons. Lorsque nous nous imaginons que nous sommes quelque chose et que nous valons quelque chose par nous-mêmes, sans Dieu. C'est pas vrai. Cum nihil sit. C'est saint Paul qui dit ça. Et il dit aux Corinthiens, chapitre 4e, la première aux Corinthiens, chapitre 4e, verset 7e, quid abes quod non accepisti. Quid abes quod non accepisti. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceperis. Et si tu as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu n'avais pas reçu? Voilà des paroles de saint Paul, qui sont profondes, qu'il faut méditer, et qui nous aident à acquérir cette vertu d'humilité dont nous avons tous tant besoin.